Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale, hein? Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Il y avait donc Brassens, Léo Ferré, Mouloudi, Moustaki, c'est mon frère.
Le Fer, bonjour.
Bonjour Gonzalo.
Comment vas-tu?
Très bien, et toi?
Ça va. De qui nous parles-tu aujourd'hui?
D'un auteur français qui s'appelle Philippe Vasset, qui n'est pas vraiment un romancier, qui finalement a sorti plusieurs romans. Il en est à son septième, dernier sorti en 2013. Mais au départ, c'est plutôt un géographe, un philosophe et un expert en relations internationales. Et son premier roman, il l'a écrit à une époque où il était rédac-chef d'un magazine qui s'appelle Intelligence Online, qui est une publication spécialisée dans les renseignements, dans le renseignement industriel et politique. Et donc, c'est plutôt sous cet angle-là qu'il s'est penché sur le roman, sur les récits, les romans qu'il écrit, plus qu'en tant que romancier. Et c'est ce qui m'intéressait chez lui, en fait. Voilà. Et notamment aussi son parcours de géographe, puisque je partage ça avec cet auteur. Donc Philippe Vasset, j'en ai ramené trois. J'ai trois livres de cet auteur. Là, je vais vous parler du premier, qui s'appelle « Exemplaire de démonstration », qui est un livre qui mélange à la fois un récit, l'histoire de d'une personne qui va faire une petite découverte, et puis des fiches descriptives d'un logiciel qui s'appelle « Script Generator ». Et donc, je vais vous lire à la fois une partie, le début du récit, et une fiche pour que vous ayez un petit peu idée de ce qui est prévu par ce nouveau logiciel très puissant et très intéressant. Donc, roman publié en 2003, Exemplaire de démonstration, c'est son premier.
I wanna hear that song, everyone.
Depuis plusieurs mois, je déchiffre le sous-sol feuille à feuille, avant que les autres le perforent de galeries. Il fait uniformément lourd de poussière et d'insectes. Au-dessus du cratère de la mine, le jeu des arbres et du soleil dessine, au sein des nuages de terre, un réseau lumineux, spectre ondoyant des tunnels qui s'étendent sous la jungle centrafricaine. Je ne suis pas l'ingénieur de cette exploitation, loin de là. Je me suis contenté d'en fournir un schéma géologique à partir des échantillons prélevés sur le terrain. C'est le travail pour lequel on m'a engagé. On m'a posé très peu de questions et j'ai considérablement limité mes exigences. Je loge sur le chantier, dans la baraque de tôle où je travaille. Je ne donne jamais mon avis sur la bonne marche des travaux et limite le plus possible mes contacts avec les cadres de la mine. Je ne suis pas plus sociable avec les ouvriers, dont je ne parle de toute façon pas la langue. Je vis comme j'ai vécu en prison, mon seul luxe est de dormir dehors quand il ne pleut pas. Ma discrétion est plutôt appréciée dans ce milieu obsédé par le secret, et on m'a plusieurs fois laissé entendre que l'on aurait d'autres opportunités à me proposer. Je n'ai pas tellement le choix, ce n'est pas en Europe que je retrouverai du travail. Le va-et-vient des machines, les explosions et les affaissements dégagent une poussière constante. On vit dans les plis d'un drap de poudre sèche, dans un milieu intermédiaire entre l'air et la matière. Sous la terre comme dessus, la peur de l'étouffement est constante. Le nuage rouge qui flotte sur le chantier peut à chaque instant se densifier et nous emmurer vivants. Dissipée d'un souffle, la poussière, dès qu'il pleut, devient boue. Elle sèche, ensuite au soleil. À chaque averse, le niveau monte. Posée à l'origine sur le sol, ma baraque est désormais prise dans une gangue alternativement dure et malléable. Après la pluie, le chantier se couvre de petits monticules qui sont autant d'objets que la terre a recouverts. Le lendemain, on fait éclater ses bosses à coups de pioche pour récupérer ses affaires devenues vestiges. Si l'on n'agit pas tout de suite, le prochain orage les enfoncera plus profondément dans le sol. Chaque pouce de ce terrain est signifiant, qu'il recèle des gemmes compressées il y a des millions d'années ou bien des reliefs de l'avant-veille. Peu à peu, on se fossilise. C'est en m'attaquant à l'un de ces monticules que j'ai trouvé les effets de mon prédécesseur. Nombre d'histoires circulaient sur ce tas, haut d'un mètre. Il était parfois décrit à mots couverts comme le mausolée de trois ouvriers surpris à voler des pierres. Personne ne voulait y toucher. J'avais assemblé, au cours de mes rares loisirs, une assez belle collection de débris défigurés par l'humidité et la terre, beaux non seulement par de leur matière étrange, mais également des histoires qui s'y rapportaient. Je n'ai pu résister à la promesse de ce fait divers ossifié. Il n'y avait en fait, sous la terre, que deux cartons écrasés remplis de cahiers, de magazines et de vêtements. Personne ne savait ce qu'il était avenu de leur propriétaire. On l'avait recruté en Guinée. Il venait de terminer une étude sur les gisements de fer du mont Nimba et souhaitait rester dans la région. Il avait travaillé un temps en Sierra Leone avant que la guerre civile n'oblige la compagnie à abandonner ses mines à la rébellion et à essayer de faire fructifier ses permis centrafricains. Il devait être suisse ou belge et s'appelait Jean. Cette vague image allait bien sûr immédiatement se brouiller. Manon Iron, la société qui l'avait employé en Guinée, le connaissait sous le nom de Pierre et m'assurerait qu'il était canadien. Les gens qui l'avaient engagé ayant quitté la société, la piste s'arrêtait là. Son passage à Bangui n'a laissé aucune trace sur les registres de l'immigration. Seule adresse, une boîte postale à Monrovia, ville qui est également son domicile bancaire. Dans l'un des cartons, il y a une chemise plastifiée. Elle recèle une feuille recto verso, précautionneusement détachée de ce qui devait être une mince brochure. C'est un papier épais et glacé, raviné par les plis. Pas d'illustration, juste des traits noirs, des points et des retraits de paragraphes pour structurer l'argumentaire. L'arrière-fond est vert d'eau, qu'une éclaircie blanchâtre vient brouiller, vraisemblablement la photographie floue d'un sous-bois tropical. Le texte est parfaitement lisible.
Ça parle de la ville aménagée jusqu'à la nausée. Il y a 6 ans, j'avais écrit un livre qui s'appelait Un livre blanc, qui racontait l'exploration systématique de toutes les zones laissées, de Paris laissées blanches sur la carte IGN, en fait. Et j'avais trouvé plein de choses, j'avais trouvé des champs de tir abandonnés, j'avais trouvé des terrains vagues, des constructions arrêtées. Et en fait, 6 ans après, La Conjuration, ça raconte la reconquête de tous ces espaces sans emploi par l'entrepreneuriat immobilier, par les centres commerciaux, mais aussi par les églises. Tous ces espaces en fait, qui coûtent presque rien à la périphérie des grandes villes sont réinvestis beaucoup par des églises évangéliques, par des temples bouddhiques, par des sectes diverses. Et le narrateur de La Conjuration, en fait, évolue dans cet univers-là et il est le factotum d'un entrepreneur du religieux, quelqu'un qui a décidé de créer une secte comme on construit une PME, en appliquant les principes de l'économie de marché au domaine du religieux, en essayant de faire des profits, en trouvant le bon argumentaire marketing, en trouvant le détail qui va faire que son produit va être vendable. Et le narrateur de la conjuration l'aide en lui trouvant des lieux pour faire des célébrations. En fait, et il met sa connaissance encyclopédique de la ville, accumulée au cours d'innombrables années d'exploration, au service de cet entrepreneur pour lui trouver le tunnel ferroviaire abandonné qui est coudé, qui fait qu'on ne voit pas les deux extrémités, qui va permettre de faire des cérémonies totalement nocturnes et de flanquer une frousse du diable aux adeptes. Et la conjuration, c'est ça, en fait, c'est l'exploration de l'envers religieux de la ville, au second degré, mais aussi au premier. C'est l'exploration de la ville jusqu'à ce que cette exploration devienne presque une entreprise d'ermite, devienne une quête mystique, devienne une découverte de soi-même jusqu'à l'absolu et jusqu'à la disparition du personnage.
Dit. Cette rengaine des milieux artistiques, il est temps qu'elle devienne pour vous, entrepreneur, une chance. Si tout a été écrit, filmé, joué, si le champ des histoires s'est en effet clos, c'est que le récit est, enfin, devenu une matière première et que son raffinage peut être mécanisé. C'est ce que va vous démontrer cette brochure. Au départ, détenteur d'un ou deux médias, vous êtes désormais propriétaire de multiples supports, journaux, maisons d'édition, studios de cinéma, chaînes de télévision, équipes de sport. À ce titre, vous êtes soumis à des contraintes de plus en plus nombreuses dans un environnement de plus en plus compétitif. Vous devez en effet lancer des contenus qui soient exploitables dans plusieurs, voire dans toutes vos filiales. Pour être rentable, un livre, un article, une bande dessinée doit pouvoir se transformer rapidement en un scénario de film, de jeux vidéo ou de programme télévisé, entité elle-même interchangeable, le mieux étant évidemment d'aligner les trois. Chaque produit est ensuite soumis à un traitement en épisode, à rotation plus ou moins rapide, suite, série retour, revanche, sans oublier bien sûr les produits dérivés, effigies, vêtements, gadgets divers, etc. Vous savez tout cela, c'est votre quotidien. Ce que vous savez également, c'est que face à un marché de plus en plus vaste et exigeant, les unités de production, elles, fonctionnent selon des schémas dépassés. Le facteur humain y est survalorisé, les économies d'échelle inexistantes, les coûts le plus souvent incompressibles. À cela, une seule raison, il n'y a aucune continuité dans la chaîne de production. La fabrication de contenu a aujourd'hui encore lieu en deux étapes distinctes. D'abord, ce qu'il est convenu d'appeler la création, privilège de l'artiste, et ensuite la mise en forme des contenus, fabrication, marketing et distribution. L'instrument présenté dans cette brochure a été conçu pour mettre fin à cet anachronisme et mettre en place un processus industriel complètement intégré où la conception des produits n'est qu'une étape mécanisée de la fabrication. Il est en effet absurde de consacrer des millions de dollars à la création alors que cette séquence de la production peut être avantageusement remplacée par un recyclage judicieux et systématisé des 2000 ans de récits qui se sont sédimentés dans les bibliothèques, les archives et les bases de données. Cette accumulation de matière qui donne le vertige au créatif, que vous payez si cher, il est temps de l'exploiter au lieu de subir son poids. C'est l'objet de cette présentation. L'outil qui y est décrit, le logiciel Script Generator, Trademark, permet d'exploiter rationnellement les réserves d'histoire et de générer un produit compétitif répondant aux besoins du marché. La révolution opérée par le script generator, c'est de faire disparaître la séquence dite de création, ou plus exactement de transformer la chaîne de production de contenu en une longue mise en forme d'une matière brute. Grâce à ce nouvel outil, les entreprises de divertissement perdront enfin leur statut d'exception, elles seules élaborent encore leurs produits à partir de rien, et pour enfin constituer une véritable industrie, c'est-à-dire un travail des matériaux. Le produit de base est utilisé. Ce n'est bien sûr pas le langage, mais l'histoire, le récit, déjà sédimenté. Script Generator n'a pas été conçu par des artistes, ni même des gens de la profession. Nous sommes simplement des entrepreneurs, formés à l'école la plus impitoyable qui soit, le marché des matières premières. Deux d'entre nous sont d'anciens ingénieurs pétroliers, trois ont travaillé à la Bourse de Chicago et un autre au London Metal Exchange. Quant au président de notre conseil d'administration, il a commencé sa carrière comme géologue pour la poursuivre sur le marché à terme du cacao. Thank you.
est-ce qu'il est toujours son écriture
ou dans... Alors, il a une écriture un peu sèche, hein, un peu journalistique. Ce que je disais, c'est qu'il est plutôt journaliste qu'écrivain. Ce qui est très intéressant, moi, je trouve, dans ce livre, c'est qu'il y a... alors, ça va se décliner au fur et à mesure. Le narrateur qui a découvert cet écrit va entamer une enquête pour essayer de retrouver ce logiciel. Et finalement, on arrive à une sorte de mise en abîme où on découvre qu'à peu près tout ce qu'on lit aujourd'hui, tout ce qui est produit artistique, n'est plus produit par un auteur, même si on maintient cette notion d'auteur parce que les gens ne sont pas encore prêts psychologiquement, mais sont produits par des ordinateurs complètement. À la fin, on nous laisse même entendre que le livre a été écrit par ce logiciel. Et donc, il y a tout ce côté très politique, très branché sur le fonctionnement économique mondial. On n'est pas loin, on ne va pas parler de la théorie du complot, mais enfin du fonctionnement secret du milieu de l'entreprise, que je trouve assez intéressant. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est roman total. J'avais été passionné quand j'étais plus jeune par James Ellroy dans American Tabloid, par exemple, ou plus récemment par les romans de Jonathan Franzen, qui sont à la fois dans le souffle romanesque et puis la dimension universelle de l'histoire, le contexte historique, la référence sociale, etc. Et là, je trouve qu'il y a un petit peu de ça dans cet auteur, sans le souffle romanesque, très clairement, mais... d'être toujours en relation avec la réalité économique du monde d'aujourd'hui.
À suivre.